Bretagne 5. Écoutez la Bretagne.
Bonjour, c'est Serge Surpin pour SatMag. Chaque jour, l'actualité des écrans sur Bretagne 5. S'il y a bien un pays où on pensait que la liberté d'expression était sacrée, ce sont les États-Unis. Elle y est protégée par le Premier Amendement. Pourtant, on savait que c'était pas si évident. Après tout, le pays se situe à la 57e place du classement de Reporters sans frontières, alors que la France occupe la 25e place. Donc nous sommes largement devant. On sait que ce classement prend en compte la dépendance de la presse vis-à-vis des pouvoirs, qu'ils soient politiques mais aussi économiques. Pas simple. D'ailleurs, faire de l'information, ça coûte cher, et il faut des capitaux pour faire tourner un média de qualité. C'est pas un hasard si même des journaux jusque-là indépendants, comme Le Monde ou Libération par exemple, ont désormais derrière eux de grands capitalistes pour les aider. Mais justement, ces deux médias ont été organisés pour que les financiers ne puissent pas donner d'ordre aux journalistes. Mais généralement, pour la presse de l'autre bord politique, les propriétaires contournent les règles pour influencer les rédactions. Vous voyez à quoi je fais allusion. Jusque-là, même si la presse américaine dépendait elle aussi des grands propriétaires, il existait un certain idéal qui faisait que ceux-ci respectaient souvent les médias qu'ils contrôlaient. Prenons un exemple. Deux journaux comme le New York Times ou le Washington Post ont réussi à faire tomber le président Richard Nixon. Leurs propriétaires n'ont pas craint d'affronter le pouvoir en place. Oui, mais certains rappelleront quand même que la presse américaine a été particulièrement frileuse au temps du barcardisme. C'est vrai, mais cela s'est terminé, là aussi, grâce à quelques médias courageux qui ont fini par réagir, dont le célèbre Edgar R. Murrow, le journaliste de la chaîne CBS. Il a fallu pour ça la combinaison d'excès des accusations, du retournement de l'opinion et de l'abandon des alliés politiques de McCarthy. Alors est-ce que cela pourra se reproduire aujourd'hui? Après tout, Donald Trump est une sorte de McCarthy des temps modernes. Oui, mais un McCarthy qui a appris des erreurs de son prédécesseur. D'abord, Trump a préparé le terrain en se faisant élire et en nommant des personnalités qui le soutiennent presque sans réserve, parfois même plus extrêmes que lui. Aux États-Unis, on avait jusque-là ce qui existe dans toutes les grandes démocraties, l'équilibre ou la séparation des pouvoirs, le check and balances, le législatif pour schématiser, qui sont les politiques qui font la loi, l'exécutif, l'administration, la police, bref, ceux qui appliquent la loi, et le judiciaire, c'est la justice qui tranche les litiges. Trois pouvoirs qui doivent être strictement indépendants. Dans les pays où la démocratie n'est plus respectée, cette indépendance est bafouée. C'est ce qui se passe entre autres aux États-Unis. Trump nomme ceux qui font appliquer la loi et accepte d'entendre l'esprit. Autre méthode appliquée par Trump et ses proches, comme McCarthy, que des excès, mais cette fois en rafale, les uns derrière les autres, de sorte qu'à peine une information est analysée qu'une autre nous tombe dessus. Cette stratégie a été théorisée par Steve Bannon, l'ancien stratège de Trump, avec son fameux « flood the zone with shit ». Son but, saturer l'espace médiatique de polémiques incessantes, vraies ou fausses, pour empêcher tout débat de fond. La vraie opposition, ce sont les médias, et la façon de les gérer, c'est, désolé pour le mot, les inonder de merde. S'est-il inspiré de Charles Pasqua, l'ancien ministre de l'Intérieur français proche de Jacques Chirac, qui déclarait « Quand on est emmerdé dans une affaire, il faut susciter une affaire dans l'affaire et, si nécessaire, une autre affaire dans l'affaire de l'affaire, jusqu'à ce que plus personne n'y comprenne plus rien ». En tout cas, le développement des réseaux sociaux n'a fait qu'amplifier cette tendance. J'évoque McCarthy, j'évoque Trump, Pasqua, des hommes d'une certaine couleur politique, mais on sait que ce n'est pas l'apanage d'un seul camp. Tous les radicaux ou populistes les utilisent. D'ailleurs, certains font remarquer que ce qui se passe actuellement aux États-Unis n'est que la réaction par rapport à la cancel culture qu'ont voulu faire appliquer ceux qui sont à l'opposé politique de Donald Trump et ses amis. Cette cancel culture est parfois décrite comme une tyrannie du politiquement correct. Et on se rappelle que ceux qui ont cédé à cette culture, à ces menaces, sont les mêmes qui aujourd'hui cèdent devant Donald Trump et ses amis. Des entreprises de médias qui ne partagent pas forcément ses idées, mais qui ont trop à perdre de ne pas en tenir compte. Rappelons-nous par exemple que Disney, qui avait été très loin dans cette cancel culture, a dû faire marche arrière, car ses derniers films ont été de relatifs échecs. Il est évident que la polarisation des esprits, prendre position dans un sens, fait perdre les partisans de l'autre bord. D'ailleurs, remarquons qu'aujourd'hui, certains appellent au boycott de Disney. Boycott qui toucherait tous les produits de la maison, films, émissions et même la plateforme Disney+, tant que la firme ne réintégrera pas Jimmy Kimmel, l'animateur viré cette semaine. Je termine comme Edward R. Murrow, le journaliste qui a fait tomber McCarthy. Je vous souhaite bonsoir et bonne chance.
Good night and good luck.
SatMag, l'actu des médias.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.